la chronique beaujolaise de l'Académie. Une émission proposée par les académiciens Pierre Prunet et Jean-Pierre Chantin. Sur Calade, le 100.9 et www.radio-calade.fr. La chronique beaujolaise de l'Académie, c'est parti.
Donc bonjour, cette émission se déroule dans le cadre des chemins de traverse, les premiers mardis de chaque mois à 18h30. Elle est rediffusée le dimanche suivant. Elle précède une conférence de l'Académie de Villefranche et du Beaujolais qui a lieu le deuxième samedi de chaque mois à 16h à l'Auditorium de Villefranche et traite du sujet en l'élargissant. Ce mois-ci, la conférence du 11 juin s'intitule « Le mythe des glaciations en Beaujolais » que le conférencier a souhaité compléter en mettant « Histoire d'un débat, d'une controverse scientifique ». Elle sera faite par Bruno Roussel, docteur en géologie, conservateur au musée de l'espace Pierre Fol et à Saint-Jean-des-Vignes, et membre de notre académie. Aujourd'hui, nous en profitons pour évoquer plus précisément avec Frédéric Gaudry, géologue et professeur agrégé des sciences de la vie et de la Terre, la richesse minérale du Beaujolais. Bonjour Frédéric Gaudry.
Bonjour Pierre.
Alors, une des premières questions, parce que la minéralogie intéresse beaucoup de monde, tout ce qui est minéral, et on connaît la richesse du Beaujolais. Et la première question, c'est qu'est-ce qu'on entend par richesse minérale en Beaujolais ?
Alors, ça dépend un petit peu qui nous sommes. À un moment donné, si on avait été industriel, peut-être que ça nous aurait intéressé. Maintenant, ça n'a plus lieu, mais ceux qui font vivre la minéralogie, ça va être les amateurs de minéraux. De petits minéraux ou alors ceux qui sont nostalgiques de ce moment industriel qui vont revoir et découvrir ces minéraux qui ont été extraits il y a 200 ans, une centaine d'années et qu'on peut encore découvrir dans certains musées. Et eux font la réputation de notre territoire.
Donc il y a plus ou peu d'exploitation minéralogique industrielle aujourd'hui ?
Non. Pas pour la minéralogie, éventuellement pour des roches comme des carrières, des granulats, hein. Mais les minéraux en tant que tels, certes, même s'il y a quelques réserves, eh bien, parce que le contexte industriel fait que ce n'est pas facile, et c'est mieux de pouvoir exploiter ailleurs. Il y a peut-être des contraintes aussi environnementales. Mais en tout cas, notre territoire est constellé de petites ressources minérales qui ont été jadis exploitées de manière artisanale. Ça pouvait être de façon saisonnière. Il y avait certains groupes industriels plus en place, liés avec la chimie, qui pouvaient éventuellement exploiter des petites concentrations minérales. Mais sinon, maintenant, ça va être, comme je l'ai dit, les amateurs de minéraux qui se rassemblent sur des clubs, par exemple, et puis qui vont farfouiller sur ces vestiges, comme des chercheurs de trésors, Indiana Jones, on fouille dans les bibliographies, après on va sur le terrain, et on essaie de retrouver en grattant ce qui est caché, en tout cas aux yeux de la plupart des gens, même ceux qui habitent à côté. Et on va essayer de découvrir la petite relique, mais c'est surtout quelque chose d'esthétique qui nous intéresse.
Alors un peu comme les chercheurs d'or.
Tout à fait.
Voilà. Quand on lit un tout petit peu l'histoire de la minéralogie, il y a des noms très compliqués. Il serait intéressant de savoir d'où ça vient et pourquoi il y a cette diversité dans la dénomination, dont je pense par exemple à la romanéchite, la chessilite, la barylite, peut-être je me trompe, je n'en sais rien.
Ou barytine. Alors tout ne se termine pas en « it », bien que bon nombre de minéraux, ou comme des roches parfois, le suffixe « it » dit que c'est un caillou, un minéral, une roche. Et il y en a qui sont certes emblématiques de notre territoire. La romanéchite, comme vous avez dit, qui est un psilomélane, donc c'est un mélange de barium et puis de manganèse. Et ça, d'ailleurs, ça a été exploité pour le manganèse. Et c'était un des plus beaux gisements, d'ailleurs, de son époque. Et donc il faut revenir bien 120 années en arrière pour vivre ce périple. Et puis la chessilite, alors là, encore plus en arrière, avec plus de 200 ans pour découvrir cette chessilite, puisqu'elle a été extraite pour la première fois et rencontrée dans la mine en 1811. Au hasard d'ailleurs d'une découverte, soit fortuite, ou en suivant de mini-filonnés qui auraient mis le maître Volneur sur cette piste de cette fantastique pierre bleue.
Et a-t-elle une particularité, cette chessilite, puisqu'elle a pris le nom, c'était l'azurite à l'origine. Enfin, moi, en géologie, on m'a appris l'azurite, mais on m'a également dit, mais la chessylite est aussi un minerai de cuivre, mais...
Alors, c'est la même chose. C'est un synonyme. Néanmoins, la première fois, donc, quand on a découvert de manière assez importante ce minerai, hein, parce que ça a été, certes, c'est très joli, pour ceux qui connaissent, hein, c'est ça qui va motiver les collectionneurs. Mais avant tout, c'était un minerai, donc broyé, chauffé, pour en extraire le cuivre, d'où sa couleur. Mais il suffit de changer juste une molécule d'eau et puis ça prend une couleur verte, qui s'appelle, et le minéral s'appelle la malachite. Alors cette azurite, elle a été baptisée ainsi qu'en 1824. Et c'est par la suite, en 1836, que le terme chessylite est arrivé dans les ouvrages. Pourquoi ? Ben, c'est en l'honneur de cette région, celle, la ville de Chessy, parce que l'azurite y prenait des ampleurs de cristallisation, de diversité des cristaux qui étaient remarquables. Et ainsi, ils ont voulu faire passer Chessy, et d'ailleurs c'est le cas, à la postérité. Mais comme azurite a été déjà définie, mais vous voyez, hein, quelques années plus tard, par rapport à sa découverte, a été baptisée azurite, avec d'ailleurs des types. Donc l'échantillon initial pour faire le calibrage chimique et physique et cristallographique de cette espèce, eh bien, c'est fait qu'en 1824. Et pendant un long moment, on a juste dit que c'était du cuivre hydroxylé, ou du, ben là, c'est pour certains autres minéraux comme la cuprite, et des cuivres carbonatés, bleu de Prusse, c'est juste ce que c'était que cette azurite. Et comme je répète, broyer, chauffer pour faire fondre ensuite et extraire le cuivre.
Et dans notre région, justement, est-ce que toute cette minéralogie est un peu un point d'appui ou à l'origine du fameux géoparc labellisé UNESCO aujourd'hui ?
Eh bien, pour rayonner, faire rayonner ce territoire, il faut des emblèmes. Et comme je l'ai dit, Romanèche, même s'il n'est pas encore intégré, mais Chessy est un faire-valoir. Et d'ailleurs, les experts ne s'y sont pas trompés. Hein. Ils sont venus expertiser le secteur et sont bien passés par Chessy. Puisque Chessy, c'est peut-être l'endroit du Beaujolais qui est le plus connu au monde, puisque au travers des musées, comme je l'ai dit, bah des échantillons qui ont échappé à cette finalité que d'être réduits en poudre, eh bien ceux qui étaient, il faut dire, sauvés par les chefs de l'exploitation, parce que ça contribue aussi à apprendre cette nouvelle science, la minéralogie, la cristallographie, qui était synchrone à cette découverte. D'ailleurs, on fête cette année en France et sur Lyon le bicentenaire de la mort de René Justalluy, qui a eu entre ses mains eh bien, des cristaux analysés. C'est lui qui a créé cette science de la cristallographie. Donc, de manière internationale, les gens vont venir à Lyon pour fêter cette minéralogie avec des colloques, des conférences pendant le mois de juillet. Mais au travers des musées, Chessy et donc le Beaujolais indirectement rayonnent de par le monde. On peut en rencontrer dans des musées comme à Sydney, à Philadelphie, en fait partout.
Ben écoutez, j'allais vous poser la question, d'où vient cette diversité minéralogique dans notre cher Beaujolais ?
Eh bien, ça, c'est la diversité des roches. Et c'est en fait, cette diversité des roches et des histoires qu'elle raconte aux géologues, puis ensuite à ceux qui vulgarisent cette histoire, eh bien, qui a fait valoir ce label Géoparc. Donc, en effet, au travers des roches, on a un héritage d'environnements différents, alors très exotiques, qui montrent que notre territoire est passé comme si on était à la base d'une chaîne de montagnes. Ensuite, que des contraintes tectoniques très importantes et des érosions les font remonter, ce qui était caché à 30 km de profondeur. Il y a ailleurs des fossiles, en quelque sorte, d'anciens fonds volcaniques, d'océans. Qui sont retrouvés coincés dans des orogénèses, c'est-à-dire fabrication de chaînes de montagnes. On a par ailleurs des mers chaudes qui ont laissé et déposé des sédiments dans lesquels on a trouvé des fossiles. Et tous ces organismes, toutes ces roches, racontent un ensemble d'informations aussi bien climatiques que tectoniques et géodynamiques. Et c'est cette diversité qui fait que le parc a été... valoriser le territoire, et par ailleurs, indirectement, eh bien que la minéralogie, puisque dans ces contextes-là, différents géologiques, mais il y a des éléments chimiques différents, et que les minéraux viennent concentrer ces éléments chimiques qui, normalement, seraient diffus. Parce qu'une croûte océanique n'a pas du tout le même fond géochimique qu'une croûte continentale. Et l'imbrication sur notre territoire de tous ces épisodes fait qu'on a une diversité minéralogique. On a à peu près 123 espèces minérales différentes sur le territoire du Beaujolais.
Et cette variété chimique, donc, donne cette variété aussi dans le domaine viticole, en tout cas sur la vigne, a une influence, si je comprends bien.
Alors, c'est vrai que quand on fait du vin, on pense tout de suite au terroir, au sol, mais avant que le sol, l'interface entre l'aspect biologique, les organismes et puis la roche, bien sûr, il y a la roche qui s'altère. Alors, il faut dire quand même que les grands crus, en termes de substratum géologique, ont une convergence, c'est qu'ils sont plutôt sur les arènes granitiques, mais il y a aussi sur leur territoire une diversité, et il conviendra donc à l'exploitant viticole de rendre compte de cette diversité, parce qu'il va voir que des fois, certaines parcelles ne vont pas donner les mêmes rendu que si on les mélange avec d'autres. Ça peut être sur l'aspect de la tenue du vin, sur tout un tas d'autres paramètres aromatiques. C'est ce qui va faire son terroir, mais il faudra bien sûr épouser la diversité de ce territoire. Et donc j'ai ciblé qu'il y avait quelques plus grands renoms de vins qui, eux, ont en commun un territoire, mais ce n'est pas pour autant que c'est à 100% que du granit sur leur territoire.
Il y a quand même une influence des sols, puisque lors d'une de vos conférences précédentes à laquelle j'ai assisté, c'est aussi dans le Charolais, la nature de l'herbe n'est pas tout à fait la même et la viande a un goût particulièrement différent.
Oui, alors on comprend vite le fait que les racines des vignes viennent puiser dans ces éléments qui sont in situ, dans les roches, alors aussi bien les granites, mais au sud de notre territoire du Beaujolais, plutôt dans des calcaires, et puis dans des régions qui nous sont directement associées, à côté, il suffit de passer le col des Écharmours, descendre vers la Clète, dans le Charolais, et là on voit une autre corrélation entre la géologie et ensuite les produits du terroir, si on peut dire, fromage, vaches, mais les vaches ne mangent pas directement les roches, mais les plantes en sont une interface. Ce n'est pas une histoire de diversité de plantes, mais c'est bien que les racines viennent puiser dans ces éléments, et dans notamment du phosphore. Vous savez, pour pouvoir produire des cellules, il faut beaucoup de l'ADN. Dans cet ADN, il y a de l'acide phosphorique. Et puis, toutes ces briques élémentaires du vivant vont être puisées dans la substance minérale.
Alors là, ça, il faut une connaissance particulière, géologique, minéralogique. Et la question qui se pose, le touriste ou la personne qui se promène ou déambule dans le Beaujolais, comment peut-il reconnaître toutes ces choses-là ?
C'est comme le minéralogiste amateur, c'est qu'il y a beaucoup de lectures ou assister à des conférences. Il y a un travail en amont pour pouvoir avoir la clé de lecture du paysage. Alors on peut très bien déjà, de manière béotienne, à profiter et apprécier ce paysage, mais il faut savoir qu'il est un héritage de l'interface, cette fois-ci, entre ce que l'homme en a fait et sur cette mosaïque de roches différentes et éventuellement de concentrations minérales très locales, très différentes. Et ce qu'on constate actuellement, c'est l'héritage de ce passé, aussi bien archéologique, agricole, industriel, qui parfois a disparu, mais ce que l'on voit devant nos yeux est encore caché, comme j'ai dit au tout début de notre entretien. Et il faut fouiller un petit peu et on va retrouver des vestiges associés d'ailleurs à ces minéraux, parce que les gens, avant, s'imprégnaient de leur territoire. Et ils faisaient avec ce qu'ils avaient sous la main. Donc le vigneron a su dompter par empirisme, savoir-faire, ça marche, ça ne marche pas. Mais il pouvait être aussi essayer de produire du lait ou plutôt de la viande, ça dépend à certains endroits, une activité vivrière, ou alors avec le bois qui poussait davantage ou qu'on a laissé à certains endroits, ou alors construire, où sont les sources. Vous voyez, toute cette cohérence qui va faire qu'on a encore des bois, des prairies, des activités agricoles, on construit ici et avec quel élément, c'est aussi peut-être jadis un héritage d'anciens géologues qui ont été nos arrière-arrière-grands-parents et qui avaient une meilleure clé de lecture de l'environnement dans lequel ils vivaient qu'on a perdu actuellement. Mais comme je le dis, ben, en apprenant, en lisant, en échangeant, suivant des conférences, ben, petit à petit, avec nos émissions d'ailleurs peut-être, eh bien, on apprend à redécouvrir l'environnement dans lequel on vit.
Calade.
Vous, juste avant d'entrer dans l'émission, vous expliquiez là, sur les églises romanes, vous aviez, en fonction de leur emplacement, vous aviez trouvé l'exploitation des carrières, etc., pour l'origine de la pierre.
Oui, parce que bon, tout autour de nous, quand on est dans du bâti, bien évidemment, c'est pas que du plastique ou du carton, encore heureux. Donc avec les roches, ben, les églises romanes, c'était au XIIe siècle, XIe siècle, pas trop de camions. Hein. Il fallait faire avec les moyens du bord. Alors j'ai évoqué que dans nos arrière-arrière-grands-parents, il devait y avoir sûrement des sensations de géologues, Galilée, qui lui explorait avait de quoi observer le lointain, ben, eux, ils regardaient ce qui était sous leurs pieds, parce qu'ils y faisaient attention. Eh bien, on peut penser qu'il devait y avoir des architectes un peu géologues pour pouvoir construire à un endroit pertinent, à moindre coût de transport, eh bien, toutes ces églises romanes qu'on peut trouver dans le Brionnais. D'ailleurs, j'aurais pu, en faisant les cartes géologiques, et m'intéressant à cette logique de répartition des églises romanes, on voit que c'est totalement corrélé avec les éléments géologiques qu'ils utilisent. C'est la mosaïque qu'on observe des églises rend compte de la diversité géologique de certaines roches dont ils avaient besoin. C'est pas n'importe quoi.
Alors, puisque nous sommes dans l'émission des mythes, on entend parler parfois que justement, les roches émettent un certain nombre d'ondes, ou je ne sais pas trop quoi. J'ai lu récemment qu'une écurie avait été construite sur une roche diverse et que les vaches donnaient moins de lait d'un côté par rapport à un autre. Est-ce un mythe? Est-ce une vérité? Est-ce simplement de la sorcellerie?
Ah. Alors, on essaie de trouver souvent tout un tas dans les mythes d'explications fantasmagoriques, mais il faut savoir que les grands mythes, le déluge, tout un tas de choses comme ça, ont une explication géologique. Même les cyclopes, hein, c'est juste des fossiles d'éléphants nains qui sont retrouvés sur Sicile, et avec à la place de l'évent, bah, plutôt de leur narine fusionnée, on y voyait des têtes d'hommes géants avec un seul l'œil, et c'est juste des restes d'éléphants nains piégés par la remontée des eaux sur ces îles. Alors, dans notre région, pas de mythe aussi extraordinaire, mais avec les vaches, donc c'est pas le Minotaure, hein, mais c'est les vaches tout court, c'est vrai que des fois on a fait des boulettes. Par exemple, dans certaines écuries, pourquoi mettre des graviers en prenant dans des anciens déblais de mine? Ben alors là, la concentration anormale de métaux, par exemple, peut avoir entraîné tout un tas de maladies. Il ne faut pas faire n'importe quoi, parce qu'il y a des concentrations en métaux lourds. Néanmoins, savoir si on peut faire les mêmes pratiques herbagère que chez le voisin, bah des fois, il suffit d'être séparé, non pas par une haie, mais parce qu'elle a sa place, si on n'a pas écrasé avec le remembrement cette logique des anciens, eh bien, on peut se rendre compte que cette haie se superpose vraisemblablement à une faille qui sépare deux terrains différents. Est-ce qu'on peut faire d'un côté de cette haie ? On ne va pas pouvoir le faire de la même manière de l'autre côté. Alors, tout ça, encore une fois, c'est une explication géologique, parce que les éléments qui sont, qu'on a cités au début, hein, liés au contexte géologique de ces roches, on ne va pas les retrouver en telle concentration. Par exemple, pour faire du lait, eh bien, il faut des apatites qui sont minéraux à l'intérieur de la roche, qui est le granit. Et puis, dans le charolais, on parlait de la viande. Mais là, le phosphore, lui, va être concentré avec les concentrations en fossiles et qui ont été à l'origine de phosphate. Et c'est là-dedans que les racines vont venir rechercher ces éléments de phosphore. On a aussi de l'azote qui va être capté avec du trèfle, de l'atmosphère. Bref, on aura un cocktail d'éléments qui ne sont pas les éléments purs du vivant, hein, mais qui vont être minéralisés. Et là, on va pouvoir faire de la viande. Alors figurez-vous que j'ai cité la Clète. À l'ouest de la Clète, vous pouvez faire de la viande. À l'est de la Clète, vous pouvez faire du lait. Eh bien, cette limite géologique correspond en fait à une limite linguistique majeure, parce que les gens, de par leur vécu, savoir-faire, n'interagissaient pas entre eux. Il y avait le monde de ceux qui faisaient les pratiques de la viande, et puis il y avait ceux qui étaient dans la pratique du fromage, du lait, et ils avaient leur parler. Et là, on doit à Mario Rossi d'avoir, dans une de mes conférences, souligné votre limite géologique que vous mettez ici est une limite linguistique majeure. Alors, vous voyez que les mythes ont toujours une explication géologique, mais en tout cas, il faut être rationnel. Et c'est en creusant un petit peu, si j'ose dire, eh bien, qu'on trouve tous ces liens fantastiques.
Je sais que vous êtes un photographe expert également et que vous avez montré une exposition à l'espace Pierre Folle sur l'intérieur du minéral. Et comment faites-vous et comment peut-on avoir justement cet intérieur du minéral ?
Alors, c'est vrai que là, je parle de révéler des choses dans le paysage, mais on peut révéler des choses qui sont microscopiques, vous voyez, ce changement d'échelle. Et bien là, il faut un petit peu de technique. Donc, faire des photos, par exemple, de micro-minéraux, parce qu'on ne va pas trouver, comme dans les Alpes, des poches à cristaux et du cristal de roche où on peut rentrer dedans, et ainsi de suite. Ça, c'est du mythe. Mais en tout cas, dans le Beaujolais, sous les racines de ces reliques de forêt qui existent, et sur les sites miniers, on peut trouver des micro-minéraux. Mais bien évidemment, rien de spectaculaire. Chaque randonneur va peut-être les piétiner sans s'en rendre compte. Et là, le minéralogiste amateur, avec sa loupe, va déjà le dénicher, va le nettoyer avec des produits particuliers, du mécanisme avec du base à ultrasons, par exemple, des bacs à ultrasons, et enlever toutes ces petites argiles, ces particules de terre qui s'étaient mises dans ces petites poches qu'on appelle des géodes. À l'intérieur de ces géodes, contrairement à dans une roche où les cristaux sont les uns à côté des autres, ils n'ont pas de place pour pouvoir pousser, et bien là, les minéraux, donc ce qui les constitue, ces fameux éléments chimiques dont on parlait, se sont agencés en espace tridimensionnel et en cristaux, tel les a décrits René Justahui. Et avec la photo, avec une loupe binoculaire et en faisant ce qu'on appelle du stacking, c'est-à-dire que comme c'est très petit, optiquement, on ne va pas avoir une grande profondeur de champ. Donc il faut reconstituer de manière artificielle cette profondeur de champ avec des logiciels particuliers. Et pour faire une seule photo, on a besoin parfois d'en faire une centaine. Chaque petit point net d'une de ces photos prises à différentes parties de profondeur de champ va être compilé et on va refaire une construction d'image qui là va avoir une profondeur de champ dans l'infiniment petit. Et là, c'est la révélation. Vous êtes au fond de la mer, vous êtes dans les coraux, un univers extraordinaire, et pourtant, ça a été trouvé.
Écoutez, merci, dans Frédéric Audry, dans une forêt perdue. Donc, on donne rendez-vous le 11 juin à 16h à l'auditorium pour prolonger cette émission avec la conférence que nous propose Bruno Roussel sur le mythe des glaciations en Beaujolais. Et puis, on essaiera, grâce à lui, à voir si ce débat et cette controverse ont, j'allais dire, des conclusions assez favorable pour nous expliquer ces fameuses glaciations en Beaujolais.
J'espère en tout cas que le thème des minéraux ne vous aura pas laissé de glace.
Merci.
la chronique beaujolaise de l'Académie. Une émission proposée par les académiciens Pierre Prunet et Jean-Pierre Chantin. Sur Calade, le 100.9 et www.radio-calade.fr.